Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette émission Web Radio. Tout de suite, je vais débuter en vous présentant notre invité aujourd'hui à propos du centre de yoga Equilibrium et de notre invité Shabad Sarup Singh Khalsa. Aujourd'hui, le centre de yoga Equilibrium. Equilibrium a été créé pour inspirer et assister chaque personne souhaitant atteindre le bien-être et le bonheur en utilisant des méthodes éprouvées depuis des temps révolus, celles du yoga et de la méditation. Le centre Equilibrium offre l'occasion d'aller chercher ce potentiel d'énergie, de paix, de bonté qui réside en chacun de nous. Alors, notre invité est cofondateur et directeur d'Equilibrium. Il est instructeur diplômé de yoga Kundalini et propriétaire d'entreprise. C'est en 1981, donc, qu'il a rencontré Yogi Bhajan. On reviendra sur ceci, Yogi Bhajan, cet homme qui a transformé la donnée en Amérique le yoga. Et donc, Shabad Sarup Singh Khalsa a étudié depuis lors avec Yogi Bhajan. Et il enseigne le yoga depuis plus de 30 ans. Il a voyagé régulièrement pour approfondir ses connaissances. Shabad partage les enseignements avec chaleur, humanité, sagesse, et il a un sens de l'humour qui en fait sourire plusieurs. L'enseignement est pour lui un véhicule pour servir les autres et pour contribuer à l'élévation de la conscience de l'humanité. J'accueille donc, sans plus tarder, notre invité, Shabad Sarup Singh Khalsa. Bonjour.
Est-ce que tu m'entends, Daniel?
Oui, je vous entends très bien.
OK, ça va.
Alors, on s'entend. Est-ce que vous avez entendu l'introduction?
Oui, j'ai tout entendu.
D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un privilège, c'est un honneur.
Ça fait plaisir.
Et donc, j'aimerais commencer tout de suite, Shabad, avec comment vous, votre définition, quelle est votre définition du yoga?
Ben, elle ne diffère pas de la définition que tout le monde a. Vraiment, c'est universel comme pratique, comme discipline, comme style de vie. Donc, il y a plusieurs aspects au yoga. Et comme vous le savez sûrement, ben, c'est simplement l'union de tout ce qui représente notre être, notre entité, et en relation avec tout ce qui est de l'univers, du cosmos, de la création qui nous entoure. Donc, tout doit devenir en harmonie, et les techniques et les pratiques ne servent qu'à justement élever sa conscience et perception pour s'harmoniser avec le tout.
D'accord. Mais pourtant, Bad, souvent, on identifie le Kundalini Yoga comme étant différent. En quoi est-ce que ça diffère?
Le Yoga Kundalini, comme son nom l'indique, très bien, c'est un yoga qui, effectivement, lui, se concentre ou porte une attention vraiment particulière à cette énergie créative qui habite chaque être humain. Donc, la façon, si on veut, dont la forme, la pratique est structurée, c'est pour obtenir, maximiser, si on veut, cette élévation, ce mouvement de la Kundalini, de l'énergie de la conscience à l'intérieur de nous. Donc, tous les yogas travaillent sur la Kundalini, elle est influencée, même en fait, on travaille tous sur la Kundalini, seulement en respirant, en vivant, simplement. Sauf qu'il y a un catalyseur, si on veut, et la pratique de yoga Kundalini est un catalyseur qui est vraiment puissant pour stimuler l'énergie. Alors que d'autres yogas utilisent une forme, disons, qui est plus basée sur d'autres aspects pour toujours améliorer aussi la conscience. Mais c'est vraiment pour le yoga Kundalini, c'est cet aspect particulier qui est présent à travers la pratique. et aussi la dimension de cette approche permet aux pratiquants de pouvoir vivre une vie quotidienne impliquée dans la société avec une profession, avec une famille, comparativement aux autres formes de yoga qui, si on les étudie comme il faut, ça prend une approche ascétique. Donc les yogis.
Une approche comment, je m'excuse?
Ascétique. Donc il faut se dévouer. Il faut se dévouer complètement à cette pratique, ce qui dans les faits pour vraiment atteindre les sphères de conscience élevées dans une pratique avec des formes Hatha Yoga. Ça prend énormément de dédication au niveau du temps. Donc c'est comme on s'implique corps et âme avec tout son temps. Alors que le yoga Kundalini, on peut vivre une vie moderne, contemporaine, tout en pratiquant cette technique, une certaine durée par jour, au quotidien aussi, mais beaucoup moins de temps à dévouer pour obtenir des résultats significatifs.
C'est très, très nord-américanisé. Est-ce qu'on peut dire ça?
Je pense que les êtres humains qui vivaient dans les régions aussi où cette forme de yoga est née avaient aussi des familles et n'étaient pas des Nord-Américains. Donc, effectivement, ici, si tout le monde sortir dans des cavernes, il n'y aura pas beaucoup d'enfants sur Terre.
Merci de cette réponse. Effectivement, on se rend compte que le yoga a été plus contemporain, plus adapté à notre société actuelle. Et je pense, et j'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu, que cette influence-là est grandement due à ce que Yogi Bhajan a lui-même apporté ici en Amérique du Nord. Quelle est son influence, vous, sur l'ensemble de ce qui se fait et qui s'offre en yoga en ce moment?
Je pourrais dire qu'effectivement, par son exemple, en fait, il a très bien personnifié, en fait, cette vie, si on veut, de spiritualité, de développement de soi, tout en étant pleinement impliqué dans le social et dans l'économique. Yogi Bhajan a établi plusieurs organismes et aussi corporations qui avaient pour but effectivement de créer, de supporter, si on veut, dans notre monde nord-américain, mais aussi dans le monde actuel, une dévotion ou un travail du spirituel, tout en ne niant rien par rapport au matériel. Donc c'était pour avoir l'équilibre dans cette proportion entre le matériel et le spirituel. Alors, il a très bien personnifié ça et il a prouvé pratiquement. Donc, lui aussi, il était un homme marié, avec trois enfants et il était à la tête de plusieurs de ces organismes qui étaient certains à but lucratif et d'autres à but non lucratif. Et donc, ce qu'il a fait en apportant cette technique, c'était vraiment d'apporter une technologie, une pratique, une discipline qui puisse nous donner une façon d'être, un style de vie qui puisse très bien pouvoir marier les deux aspects.
Oui. J'aurais dû commencer d'abord par mentionner que vous avez étudié directement avec lui.
Oui, je l'ai. Il était, parce que maintenant, en fait, il est décédé. Donc, quand j'ai commencé à faire du yoga en 1981, évidemment, je n'ai pas commencé. J'ai rencontré un de ses étudiants qui m'a initié, introduit à lui, en fait. Et par la suite, évidemment, toutes les opportunités que j'avais de pouvoir me rendre là où il donnait un cours, une formation ou un yoga tantrique blanc, alors je faisais toujours de mon mieux pour m'y rendre et de pouvoir finalement l'écouter directement et participer à ses classes. Et à l'occasion aussi, j'ai eu des rencontres privées avec lui lorsqu'on a besoin de, quand un guide spirituel est là pour nous guider dans nos questionnements, dans nos dualités. Alors, à quelques occasions, je l'ai rencontré pour aussi me guider à travers les méandres de la vie quotidienne.
Comment ça se passait une rencontre avec Yogi Bhajan? Parce que quand même, c'est pas n'importe qui pouvait le rencontrer. On le voit souvent sur YouTube, ben, on le voit souvent, on le voit autant qu'on veut, là. On le voit sur des sites web. Il y a des milliers, mais vraiment là, des milliers de personnes qui prenaient ses cours. Comment ça se passait une rencontre avec lui? Puis qu'est-ce que ça vous. Qu'est-ce comment il doit y avoir quelque chose de vraiment spécial qui se passe?
Oui, en fait, le plus drôle souvent, c'est que, écoute, c'est justement l'idée de le rencontrer personnellement était une chose auquel on réfléchissait parce que là, nous, en tant qu'individu, chaque personne qui désirait le rencontrer, c'est que on avait l'impression d'avoir un problème. OK? Et on pensait vraiment que de le rencontrer allait régler notre problème. Alors,
Ah ouais.
c'était souvent ça l'idée qui était derrière la rencontre. Au niveau de se faire guider par le maître. Donc on arrivait avec toutes sortes d'inquiétudes, de questionnements, des fois de la colère, de la frustration personnelle, tournée vers soi-même évidemment, et de demander à Yogi Bhajan lui exposer le problème si on veut, et de lui demander une approche de solution quelconque. Et très souvent, lorsqu'on se présentait devant lui, juste de se présenter devant lui, soudainement, le problème n'existait plus, comme si, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je veux le voir? Pourquoi je voulais le voir? Alors, souvent, c'était un peu l'idée d'un charisme très, très fort, une présence aussi très puissante. Et quand vraiment le problème, on se tenait, si on veut, à exposer notre problème, la réponse était souvent quelque chose de, même la plupart du temps, complètement inattendu, là. C'était comme toujours très, très surprenant, le genre de réponse ou d'incitatif qu'on pouvait recevoir de sa part. Puis, mais c'était toujours très, très élevant et très motivateur, hein, et souvent mettait en perspective la petitesse de notre problème en réalité par rapport à l'ensemble des choses.
C'est quelque chose de sûrement très marquant parce que, bon, on se connaît, vous et moi. Pour les personnes qui vont écouter cette entrevue, moi, je peux vous faire un témoignage à propos de vous-même, Shabab. C'est que vous avez, toutes les personnes que j'ai rencontrées en Kundalini Yoga, vous avez une simplicité qui est désarmante. Un sens de l'humour, je ne sais pas si c'est contagieux ou si c'est comme ça avec tous les maîtres en Kundalini Yoga, mais par contre, ce que j'ai entendu de Yogi Bhajan, il a ce sens de l'humour aussi, là. Il est très pratique, il est très contemporain, il va donner des exemples qui sont contemporains, mais par contre, en même temps, c'est très, très spirituel, ça porte à beaucoup, beaucoup de réflexions. Vous, dans votre recherche spirituelle, Shabbat, qu'est-ce qui vous a porté à vouloir ouvrir un centre? Parce que quand même, il faut le mentionner, vous avez un centre chez Equilibrium qui est une des écoles qui est reconnue par Yogi Bhajan. Qu'est-ce qui vous a porté à vouloir ouvrir une école, puisque vous êtes déjà un homme d'affaires qui a du succès, vous avez déjà tout ce que vous vouliez dans la vie, c'est le partage?
En fait, c'est l'instrument de cette réalité actuelle, c'est Yogi Bhajan aussi, très clairement et très précisément aussi. Parce que si on retourne ce qui a précédé un peu l'ouverture du centre, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, c'est effectivement ce qui a suivi une rencontre de Yogi Bhajan. À ce moment-là, mon épouse était en dualité. Elle avait de la difficulté, si on veut, à comment je pourrais dire ça? Elle désirait plutôt être dans un ashram et elle voulait déménager de Montréal. Elle voulait quitter Montréal pour aller vivre dans un ashram aux États-Unis. Elle était américaine d'origine. Donc c'était son idée principale. Alors, la rencontre avec Yogi Bhajan a été un peu, comme je te disais tantôt, surprenante et un peu désarmante. Donc, la raison de notre rencontre était effectivement de savoir où aller. et Yogi Bhajan a plutôt dit d'être à Montréal, car à Montréal était là où se situait notre destinée. Donc, effectivement, mon épouse a été assez surprise et un peu désappointée, qu'on pourrait dire, mais elle a comme complètement changé son idée et finalement elle dit OK, si c'est ça, c'est ça, c'est comme ça. Alors c'est suite à cette rencontre qu'effectivement, et Yogi Bhajan nous avait très bien indiqué que notre rôle, notre destinée était de bâtir, si on veut, une communauté de Yogi Kundalini à Montréal, et que nous aurions beaucoup de succès dans l'établissement aussi de cette réalité. Mmh. Mais il nous a pas dit d'ouvrir un centre de yoga en tant que tel. C'est nous qui avons, en réfléchissant, à dire quelle serait la meilleure méthode pour pouvoir effectivement réaliser cet aspect le plus efficacement possible. Et c'est là qu'on a pensé ouvrir un centre de yoga, et qu'effectivement on l'a fait quelques mois plus tard au centre-ville de Montréal.
D'accord. Pour les personnes qui nous écoutent, je vais mentionner le site web, comme ça ils pourront toujours, en même temps qu'ils écoutent cette émission, en différé, dans les archives, sur iTunes, sur Internet, peu importe l'endroit. L'adresse du site à aller voir, c'est equilibriumyoga.ca. Donc, je vais y aller plus lentement. C'est Equilibrium, Equilibrium, yoga. Donc, Equilibrium Yoga en un mot, .ca. Merci beaucoup, Shabbat, pour cette explication de comment ce centre, qui est un des centres importants où on pratique le Kundalini Yoga, tel qu'enseigné par Yogi Bhajan dans la région de Montréal au Canada. Chez Equilibrium, vous êtes ouvert à d'autres disciplines, d'autres styles. Et ça, c'est assez rare. On rencontre souvent des écoles de yoga où c'est un style de yoga. Mm-hmm, pouvez-vous nous en parler un petit peu, s'il vous plaît?
Ah, ben c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects à cette réalité ou cette question, la décision pour laquelle, en fait, on a choisi d'intégrer plusieurs formes. Premièrement, disons que ça fait partie de la philosophie de notre approche en général, parce que aussi étant de religion sikh, dans la tradition, si on veut, comme tel le temple d'or en Inde, à Amritsar, il y a quatre portes sur les quatre faces du temple qui indiquent justement l'ouverture sur le monde et l'ouverture à tous. Donc, c'est ce symbole, si on veut, aussi qui nous motivait à vouloir intégrer aussi d'autres formes, de ne pas être sectaire ou spécifique là-dessus. Parce que toute forme de yoga, en tant que telle, est bonne. Il n'y a absolument rien de mal à quelque pratique que ce soit. Si elle est originale et si elle provient effectivement d'une lignée ou d'un maître reconnu. Donc, dans cet aspect, on a respecté simplement cette philosophie au départ. Deuxième raison aussi, c'est qu'effectivement, on comprend très bien que déjà au départ, c'était les formes de Hatha Yoga qui étaient plus connues, plus acceptées, si on veut. Donc, dans un certain sens, ça c'est mon chapeau d'homme d'affaires qui vient se mettre dans le chemin et qui dit, ben écoute, c'est sûr que si on veut toucher des gens, ben faut leur ouvrir, on peut leur ouvrir de nouvelles disciplines, mais aussi donnons-leur un aspect, si on veut, un ensemble de plus sécurisant ou plus commun, plus familier, disons, pour pouvoir leur permettre de s'intégrer. Ils découvriront le yoga Kundalini. Donc, pour moi, les autres formes de yoga aussi étaient une porte d'entrée, si on veut, par rapport à la clientèle et aux gens qui s'intéressent au yoga en général. Donc, c'était vraiment dans ces aspects-là pourquoi on a introduit en même temps. Donc, on a autant de classes de Kundalini qu'on en a de différentes autres formes de Hatha Yoga. Et ça fait un très bon mariage. Il n'y a aucune dichotomie entre les formes. Et il y a des gens, justement, ça arrive très, très souvent. Il y en a qui pratiquent les deux formes. Il y en a qui viennent à des cours de Kundalini, qui vont à des cours de Hatha. Et d'autres qui restent simplement, ça leur convient très bien, les formes de Hatha qui sont pas intéressées ou qui n'essaient pas le Kundalini, et d'autres qui effectivement commencent simplement avec le Kundalini, et d'autres qui passent de l'un à l'autre, ils en font un bout de temps et ensuite ils décident d'aller faire l'autre. Alors tout est permis et dans une société libre, et c'est simplement les enseignements qui doivent eux-mêmes être se tenir debout, et pour les personnes avec qui une résonne plus que l'autre, ben, ils peuvent effectivement les essayer et les pratiquer.
Et voilà. Quand on va sur votre site, on se rend compte tout de suite, il y a vraiment de tout. Moi, j'invite les personnes à aller visiter, aller sur le site equilibriumyoga.ca. Vous allez vraiment voir qu'il y a de tout, du Hatha, Pilates, prénatal, yoga enfant. Il y a des événements, des ateliers. C'est vraiment de tout. Et j'aimerais qu'on revienne quand même au Kundalini Yoga et qu'on parle de deux dernières choses avant qu'on se laisse. Naturellement, le Tantra Yoga, c'est un sujet des fois qui est méconnu, qui est mal compris, qui est souvent mésinterprété. Vous avez parlé de Tantra blanc tout à l'heure. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi ça s'agit, en quoi cela s'agit?
Oui, juste avant de rentrer dans cette question-là, je voudrais juste mentionner que la mission du centre, c'est une mission en général de bien-être. Donc, tout ce qu'on peut faire, comme tu mentionnais, tous les ateliers aussi qui sont là, et avec toutes les différentes formes de yoga, les différents sujets qu'on touche, le kirtan, il y a beaucoup de kirtan aussi. Nous avons des artistes invités aussi de renommée internationale qui viennent au centre, et aussi des fois on loue des salles à l'extérieur pour des concerts. Mais c'est cette mission principale qui nous guide, de vouloir apporter du bien-être, de vouloir apporter un soulagement et aussi d'offrir des outils qui puissent aider les gens à se guérir de l'intérieur et grandir dans leur corps et dans leur âme. Donc, c'est vraiment ce qui nous guide. Donc, toutes ces formes-là sont là. C'est toujours pour être là. Tout le monde est bienvenu, peu importe la condition ou l'état dans lequel vous trouvez. Vous allez trouver de l'aide et du support. Pour revenir à ta question du tantrique blanc, bon, là, premièrement, je voudrais en profiter pour mentionner ou annoncer que le 6 octobre 2012, nous aurons notre premier tantrique blanc à Montréal. Qui sera offert ici même, les gens seront bienvenus d'en faire l'expérience. Pour parler un peu du principe fondamental du tantrique, premièrement, il y a trois formes de tantrique, donc ça je mentionnais bien le tantrique blanc, parce qu'il y a le tantrique noir, le tantrique rouge et le tantrique blanc. Alors, les tantriques noirs sont pour développer des pouvoirs extrasensoriels, mais c'est toujours au niveau de la recherche du pouvoir. Le tantrique rouge est surtout pour canaliser ou gérer les énergies sexuelles, qui sont des énergies créatives. Et le tantrique blanc, c'est une forme de tantrique qui sert à purifier le subconscient. Donc, en fait, d'accord, ce qu'on fait, c'est une forme, si on veut, l'énergie tantrique, c'est une énergie qui est liée, dans laquelle on doit être en groupe, et que cette énergie circule dans une forme, si on veut, d'un participant à l'autre en forme de Z. Donc, on le fait deux à deux, on est placé dans des lignes très spécifiques au niveau de la géométrie pour la circulation d'énergie d'un individu à l'autre. Et l'énergie est canalisée par la méditation du groupe. On chante des mantras. Généralement, les méditations sont d'une durée de 31 ou 62 minutes. Et elle est toujours dans des mudras et avec des mantras différents. Donc, ça peut changer chaque cours, si on veut, un objectif particulier. Un cours, c'est une journée où, en fait, on fait quelques méditations en matinée. Ensuite, on a un lunch et dans l'après-midi, on refait d'autres méditations pour compléter le travail. Donc, c'est une expérience qui est très puissante. Il faut avoir la seule expérience requise, c'est d'avoir un derrière en acier pour pouvoir rester assis toute la journée.
Dans les gens se remplacent pour ne pas briser le cercle, pour ne pas nuire à la circulation de la conscience de groupe. Est-ce que je me trompe?
Exact. C'est que lorsque la méditation est commencée, en fait, si les gens doivent se lever pour un besoin personnel absolu, pour sortir de la ligne, quelqu'un doit être sur place pour les remplacer. Donc, il y a des moniteurs qui circulent dans les lignes au cas où quelqu'un aurait besoin de quelque chose pour sortir de la ligne. Et si quelqu'un doit se sortir, premièrement, il ne doit pas croiser à l'intérieur de la ligne. Il doit sortir du groupe, si on veut, à travers la ligne déterminée. Et la personne, le moniteur, le remplace pendant le temps que l'autre personne va faire son besoin et revient. Donc, pour justement garder, ne pas briser ce lien énergétique en relation au groupe. Alors, c'est une expérience vraiment qui est élevante, qui est très, très, très nettoyante et on se sent vraiment sur un, comme on pourrait dire en anglais, un high. Donc, on se sent vraiment là, dans une élévation, on flotte après une journée comme celle-là. C'est vraiment une très, très belle expérience.
Et donc, on ne mentionnera pas de date d'événement. On va simplement inviter les personnes qui sont intéressées justement dans cet aspect du Kundalini Yoga peuvent aller sur le www.equilibriumyoga.ca puisque c'est, comme vous dites, c'est peut-être une première en ce moment. On parle en ce moment, sauf que...
Oui. Ben non, on l'a déjà eu, en fait. On a déjà eu le tantrique dans les années 80 à Montréal.
D'accord.
Il y a eu deux années consécutives, je pense que c'était en 84 et en 85. Par la suite, Yogi Bhajan a commencé à avoir des difficultés au niveau du physique et ses médecins lui ont recommandé d'arrêter de voyager. Alors, c'est à ce moment-là que le format a changé. Mais effectivement, là, c'est la première fois depuis ces années-là. Puis non, la date est déjà déterminée. Ce sera le 6 octobre 2012.
D'accord. Samedi. Donc, c'est un rendez-vous le 6 octobre 2012. Et en attendant, on peut toujours aller commencer à apprendre ou à expérimenter ce qu'est le Kundalini Yoga. Shabab Sarup Singh Khalsa, j'aimerais qu'on discute aussi des formations de professeurs de Kundalini Yoga, puisque c'est un processus qui est bien particulier que vous suivez lorsque vous offrez cette formation. Quels sont les prérequis pour qu'une personne puisse devenir professeur de Kundalini Yoga?
Les prérequis, c'est d'avoir préférablement au moins essayé une classe avant pour savoir si on aime ça. Et je dis ça en riant parce qu'effectivement, à quelques années, ça fait maintenant 8 ans que je fais la formation à Montréal et une à chaque année. C'est une formation qui dure 10 fins de semaine, une fin de semaine par mois, de septembre ou octobre à juin. Donc c'est environ 19 heures de classe par fin de semaine. Mais c'est ça, au niveau des prérequis, vraiment, c'est que le niveau 1, parce qu'il y a 3 niveaux dans la formation, en fait, et le niveau 1 est un niveau d'introduction, d'expérimentation, dans lesquels on transmet les enseignements de base de Yoga Kundalini. On parle aussi de yoga en général, des sutras de Patanjali, un peu d'historique, un peu aussi de philosophie indienne par rapport à justement la spiritualité ou le monde ou l'univers dans lequel on vit selon le point de vue du spirituel. En plus, évidemment, d'apprendre le pranayama, les mudras, les asanas, les kriyas et les mantras et tous ces autres aspects qui font partie de la pratique. Donc, vraiment, ça prend simplement quelqu'un qui veut être dévoué, à qui ça l'intéresse, qui est intéressé, parce que vraiment, le cours est ouvert à tous. J'ai eu toutes sortes d'étudiants de tous les âges, de tous les formats, qui ont effectivement réussi et complété le cours de formation.
Vous avez un processus d'uniformisation pour que les enseignants soient reconnus, pour conserver la pureté, la conformité aux enseignements de Yogi Bhajan?
Exact, oui. C'est pour ça qu'on a effectivement on utilise tous le même manuel, que ce soit ici à Montréal, à Mexico, à Paris, en Allemagne, à Berlin. Il y a des cours partout dans 80 pays à travers le monde actuellement qui se donnent. On est environ 200 formateurs comme moi à travers le monde. Et c'est vraiment l'aspect qui est mis de l'avant, c'est que si vous voulez faire, du yoga sur des planches de surfing ou dans la piscine ou du yoga nu, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous faites du yoga et vous vous présentez comme yoga kundalini selon la technique de Yogi Bhajan, c'est respecté à la lettre. Donc, pour effectivement que ce puisse se faire de façon progressive en vous apportant le maximum de ses bienfaits à travers la pratique. Donc, c'est selon la méthode de Yogi Bhajan et tout est respecté, tout est organisé dans ce sens-là. Donc, il faut passer à travers, il faut réaliser, être présent pendant toutes les heures de cours, évidemment. Ensuite, on a des pratiques aussi de 40 jours à effectuer. Ensuite, on a la participation à Yoga Tantrique Blanc. On a aussi de préparer un synopsis, un curriculum de cours pour soi-même, pour se préparer à enseigner. Et on doit aussi faire un examen. Et quand tout ça a été complété, on doit faire des sadhanas aussi, des pratiques disciplines matinales. Et quand tout ça a été complété, l'examen réussi, alors vous obtenez votre certificat, votre diplôme de professeur de niveau 1.
Vous avez mentionné sadhana, pratique de méditation matinale. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, le sadhana, c'est une discipline spirituelle que tous les grands courants, si on veut, spirituels ou religieux, ont une pratique du genre qui est une pratique où effectivement de pouvoir donner, remettre 10% de son temps à son âme, de consacrer 10% de la journée de son temps à son âme. Donc, ça représente, le sadhana est une pratique matinale avant le lever du soleil. Généralement, c'est vers 4 heures du matin où nous pratiquons méditation et yoga pour une durée d'une couple d'heures. Durant le lever du soleil, on commence avant le lever du soleil et normalement, ça termine vers 6 heures et quart. Le matin. Alors, c'est une pratique ou une discipline au quotidien qui, encore une fois, a le même principe, si on veut, que le tantrique, mais d'une façon quotidienne, de se nettoyer l'inconscient, le subconscient, et qu'effectivement, pour la journée ensuite, on puisse avoir l'esprit clair et la pensée neutre.
Puisqu'il nous reste encore quelques minutes, j'aimerais bien qu'on revienne, qu'on fasse une invitation, donc, parce qu'on a parlé là, d'un événement que vous allez que vous organisez en 2012 de Yoga Tantrique Blanc. J'aimerais bien qu'on refasse cette invitation. Et avant de refaire cette invitation, si un aspirant professeur, quelqu'un qui veut devenir qui veut enseigner le yoga. On dit souvent, Shabbat, que l'étudiant trouve son professeur. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer à cette personne qui cherche justement à enseigner le yoga, pourquoi devenir professeur de Kundalini Yoga?
Généralement aussi, l'approche, comme je pourrais dire, c'est vraiment de se développer soi-même, d'aller chercher en soi-même sa propre force et sa propre clarté d'esprit. Donc, mais aussitôt qu'on a trouvé une certaine aisance, dans la discipline et qu'on se sent soi-même plus clair, ben on veut le partager. T'sais. On veut absolument que les autres aussi écoutent partout où on va, partout où on regarde la société actuellement, les gens qu'on rencontre, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de burn-out. Actuellement, je crois que les gens qui vont subir des difficultés, des maladies mentales. On parle de 1 sur 4 dans notre société actuelle. Les taux de suicide, on peut continuer, les aspects négatifs de la vie actuelle. Donc, c'est sûr, quand on voit des choses comme ça et que vous rendez compte que toi, t'sais, ou que nous possédons un outil qui peut effectivement soulager cette douleur humaine, ben automatiquement,
ouais.
On veut la partager, puis on veut l'apporter, puis on veut l'offrir, puis... et c'est ce qui, moi, m'a poussé le plus à vouloir être professeur. Au début, j'étais plus ou moins, les débuts étaient difficiles dans ce temps-là parce que justement, on n'avait pas de cours de formation comme on a maintenant qui était structuré. Yogi Bhajan nous disait, ah, t'as appris telle respiration, ben, va enseigner ça, vas-y. Il nous poussait à aller enseigner, là, même en étant très peu préparé en tant que tel, mais il nous disait, apprenez une chose et allez l'enseigner. C'est tout ce que vous n'avez pas besoin de savoir. Tout pour commencer à enseigner, tu sais, seulement une technique et aller l'enseigner. Disons que dans ce sens-là.
C'est une vocation.
Oui, c'est ça, mais je me sentais pas toujours à l'aise. On a notre esprit cartésien nord-américain aussi, là, puis justement, on veut toujours tout comprendre avant de commencer à enseigner. Alors, j'ai été aussi influencé par cette réalité comme les autres. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à enseigner et que vraiment sérieusement, donc ça a été surtout avec l'ouverture du centre de yoga, et que tu vois les gens qui se sentent tellement mieux, qui découvrent quelque chose, qui ont plus d'énergie, qui se sentent plus équilibrés, qui savent mieux qui ils sont, ils se comprennent mieux, ils comprennent mieux les autres. Donc, toutes ces réalités-là, tu te dis, waouh, c'est vraiment impressionnant de voir ça, puis tu veux tout simplement continuer, tu sais, ça te motive pour pouvoir continuer à faire plus dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment de voir les gens qui améliorent leur vie, puis qui se développent, c'est vraiment ce qui est le plus attirant dans le sens de et motivant pour continuer à enseigner et à vouloir enseigner au départ, de voir ce que ça apporte comme résultat.
En terminant, il nous reste 2 minutes, mais vraiment seulement 2 minutes, l'invitation pour votre événement en 2010 de yoga, Tantra Blanc, s'il vous plaît.
Oui, alors l'espace n'est pas déterminé, l'endroit encore où ce sera.
Parce qu'on parle de centaines de personnes.
Oui, c'est exactement. Donc, ce sera officiellement le samedi, le 6 octobre 2012. L'endroit sera annoncé, évidemment, sur notre site à ce moment-là. Et ce sera une journée complète et totale de méditation de tantrique blanc, selon Yogi Bhajan, comme Mahant Tantrique, donc maître tantrique. Donc, vous êtes tous conviés et le bienvenu à faire cette expérience, même si vous n'avez pas fait de Kundalini Yoga. Il y en a plusieurs qui l'ont fait comme ça, qui sans avoir pratiqué de yoga Kundalini, et qui l'ont fait et qui ont vraiment eu une expérience extraordinaire.
Merci beaucoup. Shabbat Sarup Singh Khalsa, merci beaucoup. J'espère que cette émission que nous avons enregistrée ensemble, le temps que nous avons passé ensemble, Shabbat, pourra aider justement peut-être quelques personnes à découvrir le Kundalini Yoga, votre école. Je m'en voudrais aussi pas mentionner la précieuse collaboration que vous avez de Satnarayan Kaur, votre directrice au centre. Vous avez plusieurs autres professeurs qui sont très dévoués. Merci, 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 Shabbat. À la prochaine.
Merci Daniel de m'avoir invité. À la prochaine.